Le noir, la série attire les ennuis. Fais gaffe, Rififi, l'empire de la nuit. Plus noir que la série attire les ennuis. Fais gaffe, oh Rififi. Fais gaffe, oh Rififi.
Mes bajoux, j'ai perdu ma bedaine, et ce d'une façon si nette, si soudaine, qu'on me suppose un mal qui ne pardonne pas, qui se rit d'esculape et le laisse baba. Le monstre du Loch Ness ne faisant plus recette, durant les moments creux dans certaines gazettes, systématiquement, les nécrologues jouent à me mettre au linceul sous les feuilles de chou. Or, lassé de servir de tête de massacre, des contes à mourir debout qu'on me consacre, moi qui me porte bien, qui respire la santé, je m'avoue.
La musique.
Caravana maximum.
Ta gueule,
ta gueule. Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil. Vive
les oreilles.
Libre.
Les anges qui soupirent, et si vous entendez crier comme en 14, debout, debout les morts, ne bombez pas le torse, c'est l'épouse exaltée d'un rédacteur en chef qui m'incite à monter à l'assaut de rechef. Certes, il m'arrive bien, revers de la médaille, de laisser quelquefois des plumes à la bataille. Hippocrate dit oui, c'est des crêtes de coq. Et Galien répond non, c'est des gonocoques. Tous les deux ont raison, Vénus parfois vous donne de méchants coups de pied qu'un bon chrétien pardonne. Car s'il cause du tort aux attributs virils, il met rarement l'existence en péril. Eh bien oui, j'ai tout ça, rançon de mes fraudaires. La barque pour Cythère est mise en quarantaine. mais je n'ai pas encore, non, 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 trois fois non, ce mal mystérieux dont on cache le nom. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouc, un bélier, une bête, une brute, je suis hanté de rut, le rut, le rut, le rut.
On va juste boire un ou deux verres, c'est ce que j'ai dit à ma petite femme. À l'heure où je vous écris ces vers, y a eu comme un changement de programme. On a tombé six bières chacun, sans oublier les trois d'avant. Vous m'avez manqué les copains, faut vraiment qu'on se voit plus souvent. On va juste boire un demi, ah ça commence toujours comme ça. Quand les soirées deviennent des nuits, c'est pas prévu, ça s'explique pas. Je devais filer il y a de bonnes heures, et maintenant je trinque à l'agneau. J'ai de la volonté, ça fait peur quand l'amitié me prend par l'épaule. On refait le monde, on se vend la poire. Je t'en paye une, tu me la rends. Et on surjoue nos vieilles histoires quand on les raconte aux absents. Toutes ces conversations de bistrot, sûr qu'on les trouve pas dans les livres. Mais pour faire du coup d'arimbo, on se remémore nos râteaux ivres. On a la confidence facile. Quand le serveur rétorque aussi sec, n'essayez pas de vous justifier. Vous êtes déjà cramés les mecs. Après cette logique implacable, on est passé à l'addition. Le pourboire laissé sur la table, portez ce soir si bien son nom. On devait juste boire un petit verre, mais la vie fait des siennes parfois. Maintenant j'ai la tête à l'envers, un sandwich grec entre les doigts. J'avais prévu de pas rentrer tard, il faut toujours me prendre au mot. Il est à peine 7h moins quart, y'a pas à dire, c'est vachement tôt. La la la. Gonzesse, je tâtonne sur la pointe des pieds, avec toute la délicatesse d'un ours brun des Pyrénées. Je parle un dialecte inconnu, qu'elle est la seule à déchiffrer. Et je crois que son cou m'a reconnu, elle a souri les yeux fermés. Demain je dirai plus jamais ça, elle me rira sûrement au nez. C'est la promesse d'un candidat qui est prêt à tout pour l'Élysée. Demain je dirai plus jamais ça, elle me rira sûrement au nez. Et je vous avoue que rien que pour ça, je suis déjà prêt à recommencer. La la la.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde entier, Holomouts, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres qui débute. On a eu quelques soucis de technique, à savoir que un logiciel ne fonctionnait pas, donc j'en ai utilisé un autre, mais bon, j'ai eu du mal. On a débuté l'émission avec Iva Bitova. L'émission aujourd'hui sera en deux parties, on a deux thèmes aujourd'hui. On va pas parler de musique, bizarrement. On va parler de cinéma dans un premier temps et de danse dans un second temps. Et en premier lieu, nous accueillons Marion Échard. Bonjour Marion.
Bonjour.
De la société de distribution Malavida Film. Alors, on a écouté Smir de Iva Bitova et Pavel Fight, extrait de l'album Svadba, qui date des années 80. À l'époque, ils étaient mariés, justement. Sens du mot, signification du mot Svadba. Et je signale qu'Iva Bitova sera en concert le 15 mars au Centre Tchèque à Paris. Elle sera accompagnée du groupe Notes, groupe de free jazz tchéco-norvégien autour du trompettiste norvégien Didrik Ingvaldsen. Alors peut-être pour commencer, Marion, on va te présenter. Les auditrices et auditeurs aiment bien savoir qui leur parle. Quelle est ta fonction chez Malavida ?
Alors moi, du coup, chez Malavida, je suis l'attachée de presse. Donc c'est tout le travail de relation avec les journalistes. Et je m'occupe aussi un peu des réseaux sociaux.
Ah d'accord. Ouais. Et comment tu es venue là ?
Pour une grande... En grande partie pour le Tchèque, parce qu'en fait, moi je connaissais bien une bonne partie du catalogue, alors pas tout le catalogue de Malavida parce que c'est un gros gros catalogue, mais je connaissais bien les films tchèques, notamment les films polonais, les films hongrois, et j'avais très envie de rejoindre l'aventure, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire, et donc là ça va faire 7 ans maintenant que voilà, Anne-Laure Brénéol et Lionel Iturralde, qui ont fondé la société, m'ont fait confiance.
Ah ouais. Voilà. Super. Et alors, quel lien particulier as-tu avec la République tchèque ? Tu parles tchèque, on en a parlé en antenne.
Oui.
Et comment tu es venu à ça ?
Pour aller assez vite, en fait, l'élément déclencheur, c'est quand j'étais au lycée, où j'ai entendu parler d'une figure qui s'appelle Jan Palach, qui est un étudiant qui s'est immolé en 69 pour protester contre l'invasion des troupes du pacte de Varsovie. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'étais au lycée, c'était l'époque CPE, donc ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué qu'un jeune homme à peine plus âgé que moi puisse aller jusque-là pour ses idées, quoi. Ouais. Et après, bon, de fil en aiguille, l'histoire, le cinéma, la nouvelle vague tchèque, c'est incroyable, le cinéma d'animation aussi, la musique. Voilà, donc ça s'est fait un peu petit à petit jusqu'à m'emmener à apprendre le tchèque et avoir la chance de pouvoir avoir un métier qui a aussi un lien avec ça.
Bah, comment t'as fait pour apprendre le tchèque ? Ça fait 25 ans que j'essaie.
Bah, j'ai été à la fac, j'ai étudié, j'ai ouais. vécu là-bas.
Ah, t'as vécu là-bas, voilà.
Ça aide.
À Olomouc, donc.
À Olomouc, à Prague.
Et à Prague.
Et à Brno, un peu.
Ah, super, Brno. Ok. Bon, alors, peux-tu nous présenter Malavida ? Quand et par qui a été créée la société ? Comment ça a commencé ?
Donc oui, comme je disais tout à l'heure, donc c'est Anne-Laure Brénéol et Lionel Iturralde qui ont fondé Malavida. Au départ, Malavida, c'était un éditeur de DVD. Surtout, ouais. Et puis peu à peu, il y a une activité autour de la salle qui a commencé à se faire et qui a été de plus en plus intense. Et au tout début de Malavida, donc en salle, Anne-Laure et Lionel ont sorti des films que vous connaissez peut-être, Peau de cochon de Philippe Catherine, qui est pour le moment le seul film qu'il ait réalisé,
ah ouais, non,
mais qui
ouais.
est super, qui est aussi trouvable en DVD chez Malavida, ou aussi par exemple le premier long métrage de Joachim Trier qui s'appelle Nouvelle Donne, ou les premiers courts métrages aussi de Bertrand Mandico, ouais. Borrow in the Box et Living Still Life, et voilà. Après, on a aussi une activité de vente, parce qu'on a un point de vente à Montmartre qui s'appelle La Boutica.
Ah oui, j'ai vu ça.
Où il y a aussi tous les éditeurs indépendants, pas que, enfin il y a aussi nos éditions, ouais. Donc c'est aussi un lieu de contact qui est important. Et c'est vrai que de l'édition DVD, le fait que Malavida se soit vraiment déporté entre guillemets vers la salle, ça correspond aussi à une volonté qu'ont Anne-Laure et Lionel, pour eux en fait, la ligne éditoriale, c'est vraiment une ligne éditoriale qui fonctionne au coup de cœur, et ils ont vraiment très à cœur de partager les films avec le public. Et c'est vrai que de pouvoir travailler les films au cinéma, c'est important pour leur offrir les films dans les meilleures qualités possibles, dans belles versions restaurées, mais aussi d'avoir un contact, de pouvoir échanger avec eux, et ça c'est quelque chose d'important pour Malavida.
Ah ouais, ouais. Donc tu peux rappeler l'adresse de la boutique ?
La Boutica, c'est au 6 rue Houdon, métro Pigalle ou Abbesse.
Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. C'est vraiment.
Il y a plein de choses. C'est un peu une caverne d'Ali Baba.
Ouais, ouais. Et il y a des disques aussi.
Il y a des disques, il y a des BO de films, des super. Affiches.
Super, super. Mais alors, d'où vient l'intérêt ? Parce que, alors, moi, Malavida, pour tout te dire, je connais depuis des années par l'édition, par cette collection de films tchèques, là, tu sais, avec un graphisme particulier, d'ailleurs, que j'allais, moi, louer dans les médiathèques, si tu veux. Mais on peut les acheter aussi. Et donc voilà, moi je connais ce truc-là depuis pas mal de temps, mais je me suis demandé d'où venait l'intérêt de Malavida pour le cinéma tchécoslovaque à l'époque, on disait.
Oui, effectivement, c'est vrai que la collection tchèque, c'est une collection très importante. Ah, et donc c'est vrai qu'on est beaucoup connus pour ça. Mais Malavida, voilà, c'est aussi d'autres choses, comme Bo Widerberg, que je pense les auditeurs de Radio Libertaire connaissent bien. Pour ce qui est de la ligne, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne au coup de cœur. Et après, sur les, plus spécifiquement sur les films de la nouvelle vague tchèque, c'est des films qui ont des qualités en termes d'écriture, de cinéma, qui sont quand même assez incroyables. Mmh. Et puis aussi dans la dimension politique, c'est aussi important. Donc voilà, après c'est fait de leur cinéphilie à eux. Mmh. Voilà, il y a aussi une autre partie quand même importante de notre travail, c'est tout le travail auprès du jeune public, parce qu'on a aussi beaucoup de films d'animation, beaucoup de films d'animation tchèques, mais pas que. Il y a aussi des Polonais, des Canadiens, il y a aussi les Alice Comedies qui sont les premiers Disney, qui ont aussi un lien avec l'Alice dont on va parler aujourd'hui.
Lointain, on va dire.
Bah, c'est aussi une adaptation quand même de Lewis Carroll, avec de la prise de vue réel et des images animées.
Ah, c'est vrai.
Et c'est vraiment autre chose que ce qu'on connaît de Disney, donc c'est vraiment super.
C'est vrai, c'est vrai d'ailleurs. Ouais. Et concernant les cinématographies d'Europe centrale, parce qu'il n'y a pas que les films tchèques, moi j'ai vu qu'il y avait d'autres pays de l'Est qui sont représentés. Il y a plein de choses. J'ai vu que vous aviez ressorti en salle La Lune froide, par exemple.
Oui.
Mais qu'est-ce qui caractérise l'activité de Malavida? Quel est le cœur du projet, on va dire? Je sais pas. Est-ce que tu parlais de coup de cœur, mais c'est pas seulement ça. Il y a quand même quelque chose derrière, non?
Ah bah là, c'est peut-être pas moi qu'il faudrait poser la question.
C'est une idée.
Mais pour des, c'est des films qui ont des qualités en termes de cinéma, qui sont importants, et souvent ça va être des films, enfin pas toujours, mais pour certains qu'il faut vraiment redécouvrir ou qui ont été un peu effacés à un moment, et donc il faut de les faire renaître, de les faire partager, et c'est un gros investissement en termes d'énergie, de temps, mais c'est aussi ça qui est super. Mais voilà, après c'est vraiment parce que c'est des grands films de cinéma et que
Mais alors, est-ce que vous distribuez uniquement, là je parle de la salle, hein, pas des DVD, est-ce que vous distribuez des films uniquement des reprises, ou est-ce que vous participez à distribuer des films nouveaux?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc on a sorti des films de jeunes cinéastes, donc comme ceux de Bertrand Mandico, Nouvelle Donne ou Philippe Catherine. Après, l'essentiel des sorties, c'est quand même des reprises, ou alors des films qui n'ont pas été sortis à l'époque et qu'on va sortir pour la première fois. Ça arrive aussi.
Bah ça, il y en a pas mal. Hein. Des films qui ne sont jamais sortis. Y compris des films de Jan Schenkmeyer, d'ailleurs.
Oui. Ouais.
Mais je n'avais pas compris, en fait, que Mandico et Philippe Catherine, c'était à l'époque, en fait.
Oui, oui, c'était les tout débuts de Malavida en scène.
Ah, d'accord. Ouais. Ah, ok, d'accord. J'avais pas compris.
Donc c'est un catalogue assez éclectique.
Ouais. Et alors, peut-être, tu nous as parlé de la nouvelle vague tchèque. Est-ce que tu peux la caractériser? Qu'est-ce qui... nous donner des noms. Moi, il y a le fameux, les petites Marguerite là, de Vera Chytilova, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? De quoi tu pourrais nous parler dans cette tendance-là?
La nouvelle vague tchèque, c'est une période dans le cinéma tchèque qui est assez incroyable, parce que en fait, dans la deuxième moitié des années 60, il y a un phénomène de libéralisation politique qui permet à certains cinéastes, tout jeunes cinéastes, de s'exprimer. Donc, dont Vera Chytilova avec Les Petites Marguerites, en effet. Il y a aussi Jiří Menzel, qui a fait aussi beaucoup de films, et qui lui est resté comme Chytilova en Tchécoslovaquie. Il y a Ivan Passer aussi.
Oui.
Ça va être peut-être Miloš Forman, évidemment. Parmi les cinéastes peut-être les plus connus de la nouvelle vague, on a aussi Wojciech Jasny, qui lui fait partie de la génération d'avant, donc a vraiment annoncé
C'est un jour un chat, ça?
Oui, qui a vraiment annoncé, qui est vraiment précurseur. Et après, il y a aussi d'autres cinéastes intéressants qui sont peut-être moins classé dans la nouvelle vague, mais il y a Juraj Herz, qui est aussi un compagnon de Jan Schenkmeyer. Donc c'est intéressant aussi de parler de lui.
Est-ce que c'est lui qui a fait...
Il est connu pour l'incinérateur de cadavres, surtout.
D'accord,
Mais voilà, et en fait c'est intéressant parce que Juraj Herz, il a fait ses études avec Jan Schenkmeyer, justement, à l'Académie des Arts du Théâtre, à Prague, et donc ils étaient tous les deux dans la spécialisation marionnette.
On va en reparler. Et est-ce que c'est lui qui a fait ce film-là incroyable avec un banquet dans les bois, là?
Alors ça doit être la fête. Tu dois penser à la fête et les invités.
Oui, c'est quoi?
C'est de Yann Niemetz.
Ah, Yann Niemetz, oui, d'accord.
Qui est aussi un...
Ah, c'est super. Ça.
C'est super. Et d'ailleurs, j'en profite. Il y a les Diamants de la nuit qui va passer bientôt au cinéma.
Ouais.
Et c'est rare de le voir au cinéma. C'est un film en noir et blanc qui est sublime. Donc...
On va reparler. On va reparler. Et alors, tu sais, on a commencé par l'émission avec Iva Bitova, Smir, et je t'ai posé la question pourquoi t'étais venu à la culture tchèque. Alors moi, je peux te dire pourquoi. C'est parce qu'à l'époque, il y avait le film Step Across the Border qui est sorti avec, tu sais, autour du travail du musicien Fred Frith. Et il y a une scène, oh, c'est super, en noir et blanc, c'est un des meilleurs films de musique. Hein. Et il y a une scène où on voit Iva Bitova par le fight. C'est comme ça que j'ai découvert. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pour ça que je me permets de raconter le truc, c'est que je suis allé dans les bureaux de K-Film qui distribuait le film à l'époque, chercher la VHS achetée. Moi, je croyais le tomber dans une boutique. Et en fait, l'ascenseur s'ouvre et j'étais dans les bureaux des mecs. Quoi. Et ils ont halluciné. Qu'est-ce que vous foutez là? Bah, je viens acheter. Et en fait, j'ai acheté deux VHS qui étaient donc Step Across the Border et Alice de Jan Janke Meyer. Donc chez K-Film, tu vois, à l'époque, je sais pas, ça existe plus, ça. Tu sais pas.
Je sais pas.
Et alors, je voulais te demander, est-ce que toi, tu connais des groupes tchèques? Est-ce que tu t'intéresses au cinéma, certes, mais à la musique tchèque, aux musiques alternatives tchèques?
Oui, bien sûr. On en parlait hors antenne, mais ouais. Il y a évidemment les deux groupes les plus connus de l'underground tchèque, qui sont Plastic People of the Universe et Už jsme doma,
ouais.
Qui continuent d'ailleurs tous à jouer encore dans des... Des formations, c'est des formations assez vivantes, donc les personnalités changent, mais ils continuent toujours de beaucoup tourner. Donc,
Et d'autres groupes, non?
Il y en a d'autres.
Ah, quand tu étais à Brno, tu as dû, dû aller à la Stara Picarna, ou, tu connais ce lieu? Bon, non, on va en parler en antenne. Je propose qu'on écoute un groupe tchèque, moi, que j'ai. Alors, c'est un groupe qui date de 2008, leur album, et moi, j'ai découvert ça cette année, et je les ai vus en concert, c'était pas terrible d'ailleurs, ils refont pas les morceaux de cette époque-là, mais là, on va écouter Tiekani, qui est, voilà, Tiekani du groupe Laiki.
A naše srdce unavená, tíkají už jenom sama pro sebe. A naše příška unavená, tíkají už jenom pro sebe. A naše oči unavené, tíkají už jenom sami na sebe. Jsi toho plnej, když se nezažereš, tak brečí. Jsi toho plná, když se neuženeš, tak brečí. Jsi toho plnej, jen chuť nám velí, máme málo vůle a každá chuť se přejí v mě vyvané. A naše touhy unavené čekají už jenom sami na sebe. A naše touhy unavené čekají už jenom na sebe. A naše ruce unavené čekají už jenom sami na sebe. A jsi tak prázdná, když si neublížuješ, tak mlčíš. A jsi tak prázdnej, se nenapiješ, tak mlčíš. A jsi tak prázdná, když se nezamiluješ, tak mlčíš. A jsi tak prázdnej, když neubližuješ, tak mlčíš. Jen pro sebe, jako naše už je unavené, které šumí už jen pro sebe, jako naše hlasy unavené, které
bereš víš jen pro sebe. A ty výbrony, který by pomázali tam nebo zpátky. A taky vlny, který bychom nesli do neznámé dálky. A chybí kroudy, který bychom stáhli do veliké hloubky. A chybí ticho pro spolu na jedné lodi.
Vous êtes à l'écoute des oreilles libres sur Radio Libertaire et on parle aujourd'hui de Jan Jankmajer et de la sortie, de la reprise de son film Alice. On parle avec Marion Hichard de Malavida. Alors Marion, parlons de Jan Jankmajer. Est-ce que tu peux nous présenter ce réalisateur, nous dire qu'est-ce qui caractérise son cinéma en quelques mots bien sûr?
C'est pas facile. Peut-être juste précision, le film sort le 28 février, donc ouais, c'est ce mercredi.
Exact.
Peut-être que pour les auditeurs qui connaîtraient pas, Jankmajer, peut-être le mieux ce serait de le laisser parler lui-même. Et c'est une citation qui est tirée d'un article du Monde de Thomas Sotinel qui date de l'époque où il y avait une intégrale au Forum des Images.
Ouais.
Et donc l'article citait Jankmajer qui disait « Je ne suis pas un cinéaste d'animation. Mon cinéma relève du cinéma de l'imaginaire, comme ceux de Lynch, des frères Coen, de Buñuel ou de Fellini, même si je ne prétends pas me comparer à eux. »
Ah oui.
Voilà. Après, pour parler de son cinéma, c'est un cinéma qui est très singulier, très inclassable, effectivement qui mêle prise de vue réelle et animation. Mmh. C'est une animation qui est assez organique, très physique. Pour Jankmajer, c'est important d'avoir des objets du quotidien dans ses films. Donc, il va et puis dans l'animation, il aime aussi qu'il y ait parfois des imperfections, qu'il y ait des petits accidents, parce que c'est ça qui permet de rendre les choses plus vraies.
Mmh.
Et aussi, il aime bien aussi qu'il y ait des éléments du réel ou en tout cas de confronter en fait des éléments du quotidien avec d'autres ou alors de les mettre dans une situation qui est inhabituelle pour que ça vienne choquer, questionner la réalité, la remettre en question.
Ouais.
Donc ça dans sa pratique de l'animation, c'est important en fait de cet entrechoquement parce que il dit que lui la technique d'animation en soi, c'est pas forcément ça qui l'intéresse, mais c'est plus l'effet que ça va produire chez le spectateur.
Oui, bah oui.
Parce qu'en fait, à la base, Jankmajer, donc lui, en fait, il a été, il disait que il a eu un cadeau à ses 8 ans et ça fait partie de sa morphologie mentale. Alors ça, c'est une citation de lui. En fait, ses parents lui ont offert un petit théâtre de marionnettes, qui est quelque chose d'assez typique chez les Tchèques. On connaît évidemment, les Tchèques sont très connus pour le cinéma d'animation de marionnettes, ouais. Aussi pour le théâtre de marionnettes. Mmh. Donc voilà, donc à 8 ans, il était très heureux d'avoir eu ce cadeau parce qu'il était un enfant assez introverti. Et donc du coup, il a ce petit théâtre de marionnettes. Et donc là, il commençait à créer des décors, à créer des marionnettes. Et ensuite, au moment de ses études, alors tout le monde, on connaît assez bien la FAMU, qui est l'Académie de cinéma de Prague. Jankmajer, lui, il a fait la DAMU, qui est l'Académie des arts du théâtre.
Ouais.
Et donc, il a fait donc, une spécialité en théâtre de marionnettes, comme on disait tout à l'heure.
Mmh.
Et en fait, lui, au départ, il ne pensait pas à faire du cinéma. Il y est venu, en fait, grâce à Émile Radok, qui a été une de ses premières rencontres artistiques déterminantes. Et il avait été marionnettiste sur son film qui s'appelait Johannes Dr. Faust.
Ah ouais.
Donc on a déjà Faust qui arrive quand même assez tôt, dès 1958. Voilà, et en fait, là pour Jankmajer, ça a été un choc parce que jusque-là, il avait travaillé un peu au théâtre. Il avait fondé notamment le théâtre des masques.
Ouais.
Mais là, le fait de cette initiation en fait, au cinéma lui a fait prendre conscience de la force du montage. Et que d'un coup, grâce au montage, on pouvait passer d'un décor à un autre.
Ah ouais.
Et alors là, du coup, ça l'a fasciné. Et ensuite, il s'est lancé à faire des films par lui-même. Et du coup, c'est devenu son moyen d'expression privilégié.
Mmh.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jankmajer, c'est pas seulement un cinéaste. C'est aussi un artiste. En fait, c'est un artiste assez total,
ouais.
Dont le cinéma est son moyen d'expression privilégié. Mais à la base, il vient quand même surtout des arts plastiques. Donc ah, ça, ouais. Il a toute une œuvre plastique, il fait aussi beaucoup de sculptures. Faut pas parler au passé, il est toujours en vie. Il a fait aussi des céramiques, des collages. Enfin, c'est une œuvre assez foisonnante qu'il faudrait pas réduire.
Ah, c'est vrai. Ouais. Mais alors, tu sais que Alice, c'est son premier long métrage en 1988, mais en 88, il a déjà plus de 20 ans de filmographie derrière lui, hein, notamment tous ces courts métrages. Alors moi, je me souviens pas mal de ses courts-métrages. Moi, je connaissais Frank Meyer, si tu veux, avant Alice, parce que tous ses courts-métrages étaient diffusés à la télévision française dans une émission qui s'appelait Court-Circuit, je crois. Tu vois, une émission de courts-métrages. Et comme ces films étaient souvent primés dans les festivals, notamment à Annecy, on avait la chance de les voir. Mais est-ce que tu les connais un petit peu, les courts-métrages? Est-ce que tu peux nous en parler de ça, non?
Oui, alors, j'ai pas tout vu. Peut-être quelque chose qui est intéressant de la connaissance que j'en ai en tout cas, mais quand on voit ses premiers courts-métrages, que ce soit le dernier truc de Monsieur Schwarzwald et Monsieur Edgar.
Ah oui, c'est son premier, ça. Ouais.
Donc ça, c'est son tout premier. Ouais. Donc là, on sent vraiment l'influence du théâtre des masques, que donc là, on est plutôt un dispositif de théâtre, mais ouais, avec du cinéma, et on a déjà tout ce travail sur le son, sur le montage, sur le rythme. C'est assez impressionnant. Et son film suivant qui s'appelle Bach, Fantaisie en sol mineur. Alors là, c'est un film qui est plutôt... qui est très plastique, en fait, assez abstrait, parce que en fait, c'est inspiré d'artistes plasticiens de l'époque, dont une qui avait fait une œuvre photographique sur les murs. Et donc, en fait, c'est que des plans de murs sont rythmés avec la musique, avec des changements de plans, d'échelle. Et c'est assez impressionnant. Et après, peu à peu, il va plutôt aller sur des choses plus concrètes, en fait. Peut-être dans les choses moins connues, il a fait un film complètement en prise de vue réelle, qui s'appelle Le Jardin, et qui est vraiment génial. Je vous invite à le voir. Et alors là, pour le coup, il y a aucune, c'est vraiment que des éléments du quotidien, mais le traitement qu'il en fait rend le film complètement surréaliste. Ouais. C'est assez fou d'avoir réussi à faire ça. Et donc évidemment, ce film-là est très politique, comme l'est aussi L'Appartement. Donc c'est deux films de 68.
Ah oui.
Et
L'Appartement, oui, d'accord, c'est cette grosse tête là.
Non, c'est pas celui à L'Appartement, c'est L'Appartement qui se révolte contre le héros.
Oui, bien sûr.
Donc on l'empêche de tout faire. Et en termes d'animation, c'est génial aussi.
Ah oui, super, sûr.
Et voilà. Et en fait, jusque là, ce qui est assez paradoxal, en fait, c'est que à ce moment-là, les films de Frank Meyer sont pas beaucoup montrés en République tchèque. Mais ils sont envoyés en festival à l'étranger, effectivement, ils gagnent des prix. Parce que son premier film en 64, il a eu un prix. Et y a notamment un film qui s'appelle Le Journal de Léonard, qui avait été sélectionné au festival de Cannes. Donc là, on est en 72.
Ah oui.
Si je dis pas de bêtises. Et en fait, le critique officiel du Rue des Pravos a vu le film au festival de Cannes, il l'a détesté, il a écrit une critique terrible. Ce qui fait qu'après, Frank Meyer a été contraint, a été interdit de créer, en fait. Donc, il a arrêté de faire des films pendant 7 ans. Enfin, il est...
Ah oui, d'accord.
On l'a empêché de faire des films pendant 7 ans.
Ah oui, c'était une question que j'avais, moi. Quel était le rapport de Frank Meyer avec le pouvoir stalinien, et notamment après 68? Donc, il a été interdit de films.
Ouais, pendant 7 ans à cette période, ouais.
Ah, disons, ouais.
Ouais. Et en fait, ça c'est intéressant, c'est lui qui a raconté ça, c'était au cours d'une rencontre au festival de La Rochelle, d'ailleurs la rencontre est en ligne, c'est super, le festival de La Rochelle, ils partagent leurs archives, et en fait il disait quelque chose de très intéressant, en fait, que le système communiste était un système de panne, et c'est-à-dire que il y avait des pannes dans l'économie, mais il y avait aussi des pannes dans la répression. Et que c'est pas, en fait, un système qui s'est instauré de façon uniforme, mais un peu par à-coup. Oui. Et donc, il y a des moments où il y a eu des périodes de glaciation, mais aussi des moments où il y a eu des périodes de libéralisation. Et c'est pour ça qu'il a pu faire, notamment, le film L'Appartement ou Le Jardin. Oui. Ça, c'est la fin des années 60. C'est un moment où même la censure a été abolie. Donc voilà, et après, la deuxième période de libéralisation, c'est en 83, c'est les conséquences de la perestroïka qui se sont fait sentir.
Avec Gorbatchev, d'accord.
Et après, peut-être,
Et qu'est-ce qu'il fait alors à ces époques-là, comme film ?
Alors, au moment où il a été complètement interdit de tourner, il a quand même continué à travailler au studio Barrandov. Il a travaillé sur les projets des autres et lui, il n'a jamais arrêté de travailler sur ses projets à lui. Mmh. Donc, il s'est exprimé autrement à cette période-là. Il a notamment aussi fait des... C'était une période où il a développé le tactilisme.
C'est quoi ?
En fait, il a fait des œuvres d'art tactiles. Et c'est, là, c'est vraiment... Par exemple, il a fait un portrait de sa femme tactile, donc avec des objets. Et ça, c'était vraiment important pour lui de travailler sur le côté tactile, parce que c'est un sens très immédiat. Voilà, donc il a fait beaucoup de recherches là-dessus.
Ah oui, oui. Alors, il y a, en 71, pour revenir un petit peu en arrière, il y a un film déjà inspiré de Lewis Carroll, Jabberwocky.
Oui.
C'est okay, il est super bon celui-là.
Moi, je ne l'ai pas vu celui-là.
Il est incompréhensible. Mais je crois que même le poème de Lewis Carroll est incompréhensible. Donc, ouais. Déjà, Lewis Carroll en 1971. Mais alors, tu as prononcé le mot, me semble-t-il. Jacques Maier fait également partie du mouvement surréaliste tchèque. Et je crois même qu'il en était un des chefs de file.
Oui, il est rentré dans le groupe en 70.
Ah d'accord, ouais.
Et en fait, c'est pareil, le groupe surréaliste a eu des moments où le groupe a pu s'exprimer librement, d'autres moments où ils étaient dans la clandestinité, évidemment. Mais oui, en fait, le groupe a été plus ou moins dissous, après l'invasion des troupes du pacte de Varsovie, en partie parce qu'une partie des artistes a émigré, mais pas celui qui était à leur tête, qui est FM Berger.
Ah oui.
Et voilà, et donc Jan Švankmajer et sa femme, c'est aussi important de parler de Eva Švankmajerova, parce qu'ils étaient en couple dans la vie comme dans le travail. Donc eux, ils ont rejoint le groupe en 70. Et donc notamment, ils ont participé notamment à pas mal d'activités clandestines.
Ouais. Et qu'est-ce qu'ils faisaient alors, Eva Švankmajerova, auprès de Yann, quel était son rôle technique ou qu'est-ce qu'elle faisait?
Alors elle était, elle est morte malheureusement, peintre et poétesse. Mmh. Et alors après sur les films, je crois que la collaboration, je ne sais pas si c'est très facile de trop borner les rôles.
De dissocier.
Mais par exemple pour Alice, c'est elle qui a fait le lapin de Mars, la marionnette du lapin de Mars. C'est elle aussi qui a fait les figurines des jeux de cartes.
Ah, super, ouais.
Voilà. Donc, en fait, il me semble que sa participation était plus importante sur les longs métrages. Ouais. Mais voilà, après, je pense que c'était un peu à géométrie variable aussi en fonction des projets.
Et oui, elle est disparue il y a quelques années. Et je dirais que ça se fait sentir dans le dernier film de Švankmajer qu'elle n'est plus là, quoi. Insecte, je ne sais plus, Ims.
Qui est pas
terrible quand même.
J'ai pas vu celui-là.
Oh là là. Et par contre, oui. Alors, il y a eu d'autres longs métrages. On va venir à Alice, mais peut-être quelques mots sur les autres longs métrages. Tu parlais de Faust. Je crois que c'est celui qui a suivi Alice, il me semble.
En 1994.
Ouais. Et donc, il y en a un que j'adore, c'est Ote Sanek. Et je voudrais savoir, moi, est-ce que Malavida... oui, il y a Chilini. Alors, plusieurs questions. Il y a Chilini, donc, d'après Sad, en français, c'est...
Les fous.
Démence, je crois, ouais. Et d'après Sad, Marquis de Sad. Et alors, celui-là, je crois l'avoir vu au cinéma, donc je me dis peut-être a-t-il été distribué, mais je suis même pas sûr. Peut-être que je l'ai vu dans le cadre d'un festival. Mais tout ça pour dire que, en dehors de Alice, pratiquement aucun film, aucun long métrage de Švankmajer n'ont été distribués en France. Comment t'expliques ça, toi ?
Je sais pas. Enfin,
c'est quand même étrange. Hein, aucun est sorti en France, quoi. Vraiment.
Après, c'est vrai que le travail de distribution, c'est beaucoup de prise de risque de la part des distributeurs, surtout les indépendants. Donc, donc c'est parfois il y a des choses qu'on aimerait bien pouvoir sortir au cinéma, mais parfois on peut pas le faire parce que on peut pas forcément faire tout ce qu'on aimerait faire. Mais
d'accord,
bon, ça c'est comme tout dans la vie.
Bon, alors peut-être que... Parce que j'allais te demander, est-ce que Malavida comme vous êtes parti sur Alice qui est le premier, je me suis pris à rêver. Est-ce que vous allez faire tout un cycle Jacques Mayer jusqu'à...
Non, je sais pas. Après, Alice, c'est un film sur lequel, enfin, que Malavida avait déjà accompagné avant parce qu'on l'avait édité en DVD.
Ah, d'accord.
Donc là, c'est vrai que le film a été restauré. Il y a une VF qu'on a obtenue. Donc c'est vrai que du coup, Malavida a voulu le sortir en salle.
Ah ouais. Bon, on verra bien. Il y en a vraiment des super. Les conspirations du plaisir aussi, c'est génial.
Conspirateurs du plaisir.
Ouais, ouais. Et au Tessanec.
Mais là, c'est pas forcément pour les enfants.
Ah non, c'est pas, non, pas trop. Et au Tessanec, par contre, c'est un conte. C'est un conte très, très connu en République tchèque, au Tessanec. Et ça parle d'une marionnette en bois. Et ça se termine dans les choux. Je dis ça parce qu'on va écouter Zélie du groupe Neo Tchekavani Dihanek. Zélie, ça veut dire chou, et on écoute un court morceau de ce groupe Neo Tchekavani Dihanek.
Zavrtím se, sukně se točí, přecházet ti budou oči, vyrvu duby i z kořeny. Ne, nemám to naučený, vyrvu duby i z kořeny. Ne, nemám to naučený. Proti proudu i tam to vede, jejejej, toto zebe. Prázdné břicho nad tu zelí, já to zelí spolku celý. Prázdné břicho nad tu zelí, já to zelí. I nervy pevný má, tak pojď, půjdem spolu se žbánkem, opít se naším románkem, tak pojď, půjdem spolu se žbánkem, opít se naším románkem.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Et on parle aujourd'hui de Alice de Jan Jankmajer qui sortira mercredi 28 février en salle. Alors Marion, on va parler de Alice maintenant. Pourquoi Malavida ressortez-vous ce film maintenant en 2024? Y a-t-il une actualité? Y a-t-il une raison précise ou...
Ah ben c'est ce que je disais tout à l'heure, que le film a été restauré et qu'on on a pu avoir une VF, ce qui permet de retravailler le film. Et ça s'inscrit dans un travail qu'on avait déjà amorcé puisqu'on l'avait déjà édité. Ouais. Et voilà. Et après, c'est vrai que, comme je disais en début d'émission, le travail auprès du jeune public, c'est une dimension vraiment importante dans le travail de Malavida.
Et quand tu dis restaurer, est-ce que ça veut dire, tu sais, dans le cinéma, on a des sorties 4K, des histoires comme ça, des 4K, des sons 7.1, tu vois.
C'est pas en 4DX, en tout cas.
Ouais, tu vois, oh, putain, c'est vraiment des estouffadous, des arnaques. Mais bon, bref, est-ce que vous avez retravaillé l'image? Est-ce qu'il y a eu un nettoyage? Je ne sais pas.
Alors, sur les détails de la restauration, je préfère pas dire de bêtises, c'est assez technique,
peu importe. Nietzsche Zalinki, c'est le titre en tchèque, qui signifie quelque chose d'Alice. Alors, ce qui sous-entend que ce n'est pas vraiment Alice, c'est quelque chose d'Alice. Or, moi, j'ai lu pour la première fois cette semaine, grâce à ta venue, Marion, je te remercie, j'ai lu pour la première fois Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez fidèle, à part 2-3, je sais pas si tu as lu Alice.
Je l'ai lu aussi, effectivement.
À part 2-3 chapitres qu'on ne retrouve pas dans le film, je pense à la tortue, notamment la tortue machin, là, et d'autres, et la danse des la quadrille des homards. Sinon, le reste, c'est quand même assez c'est très fidèle. Quand même.
Mais on voit que d'un point de vue de la narration, c'est assez proche dans les épisodes, etc. Et aussi vraiment dans la narration, puisque en fait, vous verrez en découvrant le film, mais c'est la petite Alice qui raconte le film, en fait, est comme dans le livre. Et ça, c'est assez intéressant de voir la façon dont Schwenkmayer s'est emparé de ce principe narratif de Lewis Carroll. Et en fait, lui, il a fait un dispositif où c'est un gros plan sur la bouche d'Alice qui commente, parce que c'est beaucoup ses pensées. Donc ça, c'est assez fidèle. Après, c'est aussi une adaptation très libre, parce que Schwenkmayer arrive à complètement fondre l'univers de Lewis Carroll dans le sien. Et en fait, dès que le film commence, on voit qu'on est dans un film de Jan Schwenkmayer, parce que, en partie parce que ça a été tourné en fait dans son atelier.
Ah oui.
En fait, il y a tout un moment qui est le moment de la chute, où on peut en profiter aussi pour voir beaucoup de ses œuvres de Schwenkmayer, et beaucoup de sculptures. Donc ça, c'est assez intéressant.
Il y a même une superbe scène en extérieur quand elle rentre dans la table. Ça, c'est pas dans Alice au Pays des Merveilles. Et alors, si quand même, elle est moins bavarde dans le film que dans le livre Alice.
Elle est moins bavarde et le comment dire. Moi, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, disons, c'est quand même c'est un univers, un monde qui est quand même très agressif. Parce que Alice, elle n'arrête pas, on lui donne des ordres, on n'arrête pas de lui dire qu'elle fait mal les choses. Ouais. C'est quand même assez incisif dans le livre, et ce n'est pas le cas dans le film.
Ah oui. Non, c'est vrai.
Alors après, il y a toujours cette dimension du personnage qui ne se laisse pas faire, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus doux dans le film que dans le livre.
Et alors, tiens, justement, parmi les nombreuses interprétations de Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll, dont certaines farfelues, voire ésotériques, tu vois, on a dit tout et n'importe quoi sur ce bouquin, mais il y en a une qui semble quand même assez évidente, assez valide, c'est la critique de l'éducation, dont, que tu évoquais hein, peut-être un petit peu là. Je cite un court extrait de Alice au Pays des Merveilles. Alice n'aimait pas qu'on lui fît ainsi la leçon. C'est vraiment quelque chose d'effarant, dit-elle à part soi, que la manière dont toutes ces créatures résonnent. Il y a de quoi vous rendre folle. Et moi, je vois quand même une dimension, effectivement, une critique de l'éducation. Est-ce que c'est valide pour toi dans le film de Schwenkmayer? Et je suppose que vous avez fait des dossiers pédagogiques à l'intention des écoles pour tenter de faire venir d'intéresser les enseignants à l'œuvre de Schwenkmayer. Est-ce que vous mettez ça en avant, le fait que ce soit une critique de l'école?
Je ne sais pas si c'est... En lisant le livre de Lewis, moi, j'ai pas forcément ressenti que c'était une critique de l'école, mais je pense que c'est un peu plus large que ça, c'est-à-dire plutôt une critique de l'ordre établi. Donc je pense que ça dépasse ça, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti.
D'accord.
Après, pour ce qui est de l'accompagnement du film, en tout cas les salles de cinéma sont quand même très très désireuses d'accompagner le film et de faire des activités, elles ont vraiment envie d'accompagner le film avec les enfants, donc c'est super.
Alors il y a une scène, la scène de, alors je sais pas si c'est un rat ou une souris qui est sur la tête d'Alice et qui fait un feu de camp là, et en fait c'est une scène dans laquelle Schwenkmayer rend clairement hommage à Jerzy Trinka. Je sais pas si... Alors, je me souviens d'avoir vu un film de Jerzy Trinka où il y a exactement la même scène, en fait. Ce rat qui nage et qui fait un feu. Mais est-ce que tu crois que... Est-ce que Trinka, par exemple, a été une influence de Schwenkmayer?
Une influence, je pense pas. Mais en tout cas, c'est évidemment... un des réalisateurs d'animation tchèque les plus importants. Il y a aussi Karel Zeman. Trinka, lui, c'est beaucoup de films. C'est vraiment les marionnettes. Karel Zeman, lui, va combiner aussi live action, enfin du live et de l'animation aussi, beaucoup
du dessin,
de gravures, ouais, etc. Ouais. Donc
c'est super.
C'est peut-être l'univers de Karel Zeman est peut-être plus proche d'une certaine façon de celui de Schwenkmayer, même s'ils sont très différents. Après, je sais que pour le rapport de Jan Schwenkmayer à Jerzy Trenka, quand il a découvert l'année tchèque, ça a été vraiment une révélation, un choc, mais aussi parce qu'il ne s'y attendait pas. Après, je pense que c'est aussi deux univers qui sont quand même très différents.
Je crois que c'est l'année tchèque qui est ressortie il y a un an à peu près.
C'est possible.
Jerzy Trenka, ouais. Bon, c'est un peu vieilli, ça, par contre. Et on avait reçu Charles Douin-Kitton il y a pas mal d'années maintenant. Nous l'avions reçu pour son livre Le cinéma de Jan Schwenkmayer, un surréalisme animé. Et il nous avait parlé du son qui joue un rôle très important dans les films de Schwenkmayer. C'est presque chirurgical parfois. Ça crée des sentiments un peu même de dégoût. Des fois on entend des mastications, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, du traitement du son chez Schwenkmayer?
Bah, c'est sûr qu'il est, il est très important. Il est assez frappant parce que c'est vrai que souvent c'est des... Là, en plus, on est donc dans le cinéma d'animation quand même. Et donc, il faut tout recréer. C'est-à-dire qu'il faut recréer tous les sons d'ambiance, tous les... Et c'est vrai qu'on voit que Schwenkmayer prend du plaisir à créer toute cette identité sonore. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont que des sons réels. Il n'y a aucun son fabriqué.
Ah, d'accord.
Et ce qu'il aime bien faire aussi, c'est, ça va être de modifier l'intensité des sons, d'augmenter le son de son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, pour créer un peu un effet de déstabilisation peut-être. Mais moi, je trouve que c'est un des trucs géniaux dans son cinéma. Et c'est vrai que, par exemple, pour revenir peut-être sur un élément plus concret de Alice... Donc il y a, vous connaissez l'œuvre de Lewis Carroll, donc il y a le moment où Alice se met à pleurer.
Ouais.
Et donc évidemment, elle pleure à torrent. Et là, d'un coup, on entend le bruit des vagues, on entend les mouettes.
Ah oui, c'est vrai.
C'est assez frappant. Et on passe d'une pièce à l'autre et le bruit disparaît, puis réapparaît quand on se retrouve dans la mer. Et c'est plein de petits détails comme ça, en fait, qui sont assez fous, quoi.
Quelle est ta scène préférée ou tes scènes préférées, il y en a tellement de bien dans le film.
C'est pas facile.
C'est dur ça, ouais, je sais pas si je pourrais répondre à ça.
Bah, peut-être que une des choses quand même, enfin, tout le film est hyper, hyper intéressant, mais peut-être on peut parler un peu de l'ouverture, comme ça spoile pas trop ceux qui l'auraient pas vu.
Ouais.
Mais vraiment, en ouverture du film, on nous dit « Fermez les yeux, sinon vous ne verrez rien. »
Ah oui, bah oui.
Et c'est un peu tout un programme. Et c'est intéressant parce que ça permet de renouer avec le livre qui est vraiment le rêve d'Alice.
Bah oui.
Et donc là, effectivement, donc on va fermer les yeux pour mieux voir. Alors c'est un peu étonnant de nous dire ça à l'ouverture d'un film. Et en fait, donc, le film s'ouvre sur un petit ruisseau. Et puis, on entend des cailloux dans l'eau.
Ah oui.
Et ensuite, donc là, c'est très calme, rien ne bouge, etc. Et après, on passe sur une scène d'intérieur, où alors là, on retrouve un montage assez ciselé, comme Schwenkmayer aime les faire. C'est très, très rythmé. On a des changements de plans, des gros plans, des zooms. Enfin, ça tranche beaucoup. Et en même temps, rien ne bouge, sauf la caméra, le montage.
Ouais.
Donc, il y a un jeu entre le mouvement et la fixité. Et ensuite, on a un raccord en fait par le son avec la première scène, parce qu'on commence à entendre plouf, plouf.
Ah oui.
Et en fait, c'est Alice qui jette des cailloux dans sa tasse de thé.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Et en fait, ça permet de poser le dispositif du film. Et donc là, on voit les deux Alice, parce que un des motifs importants du film, ça va être la métamorphose.
Ah bah oui.
Parce qu'évidemment, Alice grandit et rapetisse. Et Schwenkmayer donc, utilise tantôt la petite actrice, tantôt sa poupée. Et donc ça, en termes d'animation, il va réussir à faire passer de l'animé à l'inanimé et inversement.
C'est super fort, ça.
Et en fait, c'est... ça, il arrive à le poser en quelques minutes au tout début du film, mais c'est quand même très beau. Alors après, je ne pense pas que ça, je puisse dire que c'est ma scène préférée, mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle façon de rentrer dans l'univers et de commencer le film.
Alors moi, il y a une scène que j'adore, et alors ça va me permettre d'enchaîner avec la question suivante, c'est celle où il y a les animaux en squelette, tu vois. Là où il y a la bataille dans la maison là.
Oui, oui.
Ben alors, juste
Gaston.
Ouais. Et ben je me souviens moi d'avoir diffusé le film à des classes il y a plus de 30 ans de ça maintenant. Hein. C'était mes débuts de projectionniste et ça posait aucun problème. Hein. J'ai vu 10 fois avec les classes et alors les enfants réagissaient, c'était génial quoi. Ah, ouais. Quand il y a la viande là qui avance tout seul là, tout ça. Et ils semblent que maintenant, on doit prendre quelques précautions avant de montrer le film aux élèves. Et comment tu analyses ça? Comment tu comprends ça? Est-ce qu'il y a une évolution dans ce qu'on croit pouvoir montrer aux enfants?
C'est une question difficile. Après, c'est de toute façon toujours bien d'accompagner les films.
Ah bah oui, ça.
Surtout
ce qui se faisait à l'époque, d'ailleurs.
Oui.
Ce qui se faisait.
Quand c'est des films qui s'adressent à un jeune public. Moi, des retours d'expérience que j'ai eus d'un ami critique, Nicolas Tis, pour ne pas le citer, qui est aussi chroniqueur à Bulle de Rêve, il disait qu'en général, les enfants adoraient le film, en fait, ouais. Ça se passait très bien.
Bah oui.
Donc, et voilà. Et après, encore une fois, cette scène-là, dans le livre, moi, je la trouve plus dure que dans le film. Donc, c'est peut-être beaucoup de peur qu'on projette en voulant protéger les enfants, sauf que c'est sûrement pas la meilleure façon de faire pour.
Oui, puis c'est un peu paradoxal avec tout ce qu'on leur montre par ailleurs.
Oui, bah évidemment, il y a beaucoup de. C'est pas très violent en termes d'image par rapport à toutes les images qu'on peut voir par ailleurs.
C'est clair. Donc moi, j'encourage vraiment. Alors, souvent les distributeurs indiquent un âge. À partir de quel âge vous l'indiquez
Alors nous, on le conseille dès 8 ans.
Ouais.
Mais par exemple, Benchy soutient le film et eux, ils le recommandent dès 6-7 ans.
Ouais.
Donc après, de toute façon, il n'y a pas vraiment de règles. Hein, mais...
ouais.
Après, c'est vrai que là, comme il y a la VF, ça permet de le montrer aussi à des plus petits.
Ouais. Là, comme je te disais aussi, il n'y a pas tant de paroles que ça. Donc c'est pas dérangeant de le voir en VF en fait. Moi je l'ai vu indifféremment en VF.
Oui.
En
après c'est vrai que la VF est super, donc
profitez-en. Et alors il y a une nouvelle affiche également. Vous avez ressorti, je me souviens d'une ancienne affiche qui était un peu sombre, un peu cracra. C'est vrai qu'il y a une esthétique dans Jean-Luc Maillard un peu crasse, tu vois, avec les robes qui sont pas bien blanches, qui sont des trucs comme ça. Et ça, on le voyait bien dans l'ancienne affiche. L'affiche que vous ressortez, là, est beaucoup plus joyeuse, on va dire, plus gaie.
Oui, elle est colorée.
Colorée, ouais.
Ça permet aussi de montrer aussi tout l'univers de Jan Schwankmayer.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il y a... Pour les auditeurs, il y a toutes les marionnettes en fait qui sont autour d'Alice.
Ah oui, c'est vrai. Que dans l'ancienne affiche, c'était uniquement son
visage.
C'était
uniquement elle.
Ouais. Mmh. Je propose qu'on écoute un peu de musique. On va écouter Gvieti. Je ne sais pas si tu connais ce groupe. Gvieti. On va écouter Ballon.
Na ně položila tvář, nebo škrábe tě kameraní, luční koník, ani suché stvoly, kousek od stadionu projíždí vlak, na vysokém náspu mezi stromy, je sobota, anebo neděle, jak nechodím do práce, tak se to plete, je blíž ráno, anebo poledne, tam ta radana, je sobota, anebo neděle. Jak nechodím do práce, tak se to plete. Je blíž ráno, anebo poledne. Tam ta rada dá, chvíli jsme se nedívali. A zatím něco se stalo. Malého fotbalistu odnáší, rozhodčí, náručí. Ostatní děti mlčí. Ale psi, kteří vyrostou jí kosti psů, pamatuj, balón, balón, utíká od nohy k nose, balón, balón, na jemné zelené trávě, balón, balón, utíká od nohy k nose, balón, balón, na jemné zelené trávě. Kdyby si na ní položila tvář, nepoškrábe tě kámen ani luší koník, ani suché stvoly. Kousek od stadionu projíždí vlak na vysokém náspu mezi stromy. Je sobota, anebo neděle, jak nechodím do práce, tak se to plete. Je blíž ráno, anebo poledne, tam ta-ra-ra-ra. Je sobota, anebo neděle, jak nechodím do práce, tak se to plete. Je blíž ráno, anebo poledne, tam ta-ra-ra-ra. Chvíli jsme se nedívali a zatím něco se stalo. Malého fotbalistu odnáší, rozhodčí, náručí. Ostatní děti mlčí. Psi, kteří vyrostou jí kosti psů, pamatuj, balón, balón, utíká od nohy k noze, balón, balón, na jemné zelené trávě, balón, balón, utíká od nohy k noze, balón, balón, na jemné zelené trávě.
Alors nous sommes avec Marion Richard sur Radio Libertaire dans les oreilles libres pour parler de Alice de Yann Jankmajer. Alors Marion, tu voulais nous parler de la production du film.
Oui, on l'a abordé un peu rapidement tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce qu'il faut rappeler, c'est que donc à l'époque, on est dans la Tchécoslovaquie communiste. C'est donc l'État qui a complètement le monopole sur la production cinématographique. Et en fait... Jankmajer et Jaromír Kalista, ils ont fondé en fait dès 80, enfin ils ont fondé, ils ont lancé en 1983 une structure de cinéma indépendante, donc du coup complètement clandestine, parce qu'on ne pouvait pas faire des films en dehors du système. Ils ont réussi à trouver une caméra et en fait ils ont tourné Alice comme ça. Donc en fait Alice n'a pas du tout été tournée avec des fonds de l'État, ni de soutien, et le film a été fait complètement dans la clandestinité en fait. Ils l'ont tourné donc dans l'atelier même de Jankmajer. Pour ceux qui connaissent bien les films, on reconnaît la cave, c'est la même cave que dans Otesanek.
Oui, d'accord.
Et ce qui est assez ça fait rire Jankmajer. C'est donc du coup le film a été tourné de façon clandestine, mais il a quand même été distribué officiellement par la distribution d'État. Il dit que ce sont les absurdités du totalitarisme. Et donc ça, c'était dans la rencontre avec Jankmajer du FEMA, du Festival de La Rochelle que j'ai cité tout à l'heure.
Ouais.
Et donc en fait, donc pour leur structure de production clandestine, elle a été légalisée en 1992. Donc okay. C'est
Atanor. Atanor, oui.
Donc pour ceux qui sont férus d'alchimie, c'est le four.
Bah oui.
Et donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que ça mène à... Enfin, on parlait en micro d'une lecture politique d'Alice, qui est quand même assez... on a envie de le faire, et c'est vrai que... Jankmajer, c'est une figure très libre, en fait. Mais quand quand on repense donc à la reine qui veut, c'est un élément du livre évidemment, mais qui veut trancher les têtes de tout le monde avant même de faire un procès, et c'est le roi qui la tempère un petit peu en disant bon, on va peut-être quand même faire le procès. Effectivement, le fait de transposer ça dans un régime totalitarisme, évidemment, on a envie d'en faire une lecture politique, et c'est d'autant plus frappant de voir que le film a quand même été autorisé, alors que on pourrait vraiment y lire une critique assez assez féroce.
Parce qu'il sort en quelle année, je crois en Tchécoslovaquie.
Ben, il me semble que c'est dans la foulée, mais j'ai pas...
90,
parce qu'en fait, le film a été présenté au Festival d'Annecy, il a eu le Grand Prix du long-métrage.
Eh oui.
Et je pense qu'il a été diffusé...
Donc avant la chute du mur, en fait, avant la fin du rideau de fer et...
Ouais, c'est a priori, ça. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai pas vérifié l'information.
Si, je crois, ouais, je suis pratiquement sûr. Et après, il va continuer à faire des courts-métrages, dont La fin du stalinisme en Bohème, d'ailleurs. Hein, où il est là, c'est très explicite.
Oui, mais c'est après la chute du mur, celui-là.
Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Alors, il y a une sortie, une soirée organisée mercredi 28, il me semble, pour la sortie du film.
Oui, c'est ça, c'est le soir de la sortie, donc mercredi 28 à 20h, au Reflet Médicis.
Ouais.
Où le film donc, sera diffusé aussi 3 séances par jour à partir de mercredi. Ce sera en VOST, en version sous-titrée.
Ah oui, ok.
Et a priori, il devrait y avoir des séances en VF au studio des Ursulines à Paris.
D'accord. Mais pour cette soirée, vous avez annoncé une surprise.
Un invité surprise.
Alors tu peux
J'en
dire.
J'en dirai pas plus.
Ah si, vas-y. Bon alors, en antenne alors.
Non. Et voilà, il y aura aussi un cocktail et il y aura aussi une boutique à éphémère. Donc c'est-à-dire qu'on vous proposera les DVD, des DVD d'animation. Ou les DVD de la collection tchèque petit prix pour l'occasion.
Ah, génial.
Et un verre, évidemment.
Ah, de bière tchèque.
Un cocktail dînatoire.
Ah, super. Et alors, tu parlais du studio des Ursulines, du Reflet Médicis. Est-ce que tu sais quelle autre salle à Paris, en banlieue parisienne, diffuseront le film?
Alors là, j'ai pas toutes les salles en tête, mais. C'est donc Lucas Thiebaud qui s'occupe de la programmation chez nous, disait qu'il y avait plus de 15 salles qui ont déjà daté le film. Donc c'est partout en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les salles le passeront pas forcément tout de suite. Ça va se faire un peu dans le temps parce que, comme je disais tout à l'heure, elles sont très désireuses d'accompagner le film. Donc parfois, elles vont le prendre un peu en décalé.
Ouais,
Donc il faut peut-être être un peu patient. Après, il ne faut pas hésiter à réclamer non plus le film dans vos cinémas préférés parce que ça compte.
Et c'est vrai que ça compte, hein, ça je peux le confirmer.
Mais voilà, en tout cas... On peut déjà dire qu'il y a 15 salles.
Le 13, la semaine du 13 mars à la Île des Roses, si jamais vous êtes dans le coin. Ouais. Et alors, est-ce que c'est bon pour Alice? Parce que j'ai d'autres questions concernant Malavida. Et notamment, j'ai vu qu'il y avait un cycle, une mémoire inquiète, présence du passé juif dans le cinéma d'Europe centrale. C'est au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Est-ce que tu peux nous parler de ça?
Oui, alors ça c'est un cycle qui est programmé par Mathieu Leric en collaboration donc avec les équipes du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc il y a beaucoup de films, je vous invite à consulter le programme sur leur site. Donc il y a parmi tous ces films, il y a 4 films Malavida.
Ouais.
Donc il y a Les Diamants de la nuit de Yann Niemetz, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un film sur la Shoah en noir et blanc, dans un noir et blanc magnifique. Qui est très beau et qui est disponible en DVD si vous le souhaitez, mais c'est vrai que c'est rare qu'il soit proposé en salle, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Il y a aussi Le miroir aux alouettes de Kadar et Klaus qui a eu l'Oscar, qui est aussi un... De toute façon, tous ces films-là sont sur la Shoah, mais celui-ci se déroule en Slovaquie et en fait c'est un homme qui en fait doit... est mandaté pour récupérer le commerce d'une femme âgée juive et ça va pas se passer comme ça. Ouais. Le film est magnifique aussi. Il y a un film hongrois qui s'appelle Jour glacé de Kovács qui revient en fait sur un épisode assez complètement terrible, en fait, c'est à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des énormes rafles de juifs hongrois. Et donc, ça revient sur ce moment historique. Et après, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, mais c'est une rafle terrible. Ouais. Et ouais. En fait, le film est vraiment intéressant dans sa narration, parce qu'en fait, c'est un huis clos dans une prison. On est en fait avec les responsables militaires de cette rafle qui la racontent. Il y a tout un système de flashbacks. Le film est assez terrible, mais très beau.
Ouais, ouais. Et c'est le week-end du 9, je crois, du 9-10. Ça commence le 7, je crois.
J'ai pas toutes les dates en tête, mais je crois que l'ouverture, c'est le 5 mars.
Ah oui, t'as raison. Ouais.
Et après, ça doit être 6, 7, 8, 9 pour les 4 films Malavida. Alors, j'ai plus en tête, mais je vous invite aussi à consulter notre page Facebook, ils sont indiqués.
Ouais, ou le musée.
Et aussi le musée d'art et d'histoire du judaïsme.
Ça commence le 5, effectivement, avec Kieszowski, un des épisodes du Décalogue. Alors, quelles sont les activités à venir de Malavida? Est-ce qu'il y a des sorties vidéo dont tu pourrais nous parler? Des sorties en salle également, ou des événements?
Donc là aussi, ce mercredi 28 février, on va sortir deux DVD. Un programme d'animation qui s'appelle Le Petit Hérisson dans la Brume et Autres Merveilles.
Yuri
Norstein.
Norstein, bien sûr.
Donc c'est un programme de 4 films. Qu'on a sorti au cinéma l'année dernière, qui a énormément plu. Donc avec Le Petit Hérisson dans la Brume, qui est un des plus beaux films d'animation, qui a été élu même meilleur, plus beau film d'animation de tous les temps. Il y a aussi un court-métrage qui s'appelle Il était une fois un chien, de Nazarov, qui est inspiré d'un conte ukrainien, qui est super. Et il y a aussi La Moufle, qui est un court-métrage... Qui est très très beau, très moderne, avec un personnage de maman qui est super. On n'a pas l'habitude d'en voir comme ça. Et qui est très très fin dans l'animation, parce que c'est en fait une moufle qui devient un chien.
Ouais.
Donc c'est très beau. Et il y a aussi Le Lionceau et la Tortue, qui est un court-métrage complètement fou, qui est vraiment délicieux à regarder, et où c'est un lionceau qui fait du ski nautique avec une tortue.
Ah ouais.
Et donc ça, c'est en DVD le 28 février. Il y a aussi, on sort aussi le même jour, Swing, de Tony Gatliff.
Ah bah oui.
Qui est un superbe film aussi.
Ah ouais, j'aime beaucoup ce film.
Sur le jazz manouche, il y a aussi beaucoup de sessions de musique. Et c'est vraiment une plongée dans le quotidien des gens du voyage.
Ah ouais. Ah, je crois que c'est un
mode à la joie, c'est un super film.
Ouais, un des préférés de Tony Gatliff. Et j'ai vu qu'il n'y a pas une sortie d'un autre film de Yuri Norstein.
Si, on fait dans le prolongement du travail qu'on a déjà fait, on va sortir donc le 26 mars au cinéma un programme d'animation. Donc là, c'est deux courts-métrages. Il y aura donc La Renarde et le Lièvre de Yuri Norstein, qui est très très beau. Donc c'est toujours du papier découpé et ça raconte l'histoire d'un lièvre qui a une maison de bois et une renarde qui a une maison de glace. Et évidemment, quand la neige fond, la renarde perd sa maison, donc elle va déloger le lièvre. Donc voilà, donc le lièvre va trouver des amis pour essayer d'y remédier. Et l'autre court-métrage, c'est un court-métrage qui s'appelle L'Antilope d'or, de Lev Atamanov. C'est lui notamment qui avait réalisé la Reine des Neiges dans les années 50. Donc là, c'est un film qui fait penser au film au livre de la jungle, parce qu'on est en Inde, dans la jungle. Et voilà, donc il y a un Maharaja qui veut voler l'antilope parce qu'elle a ce don de pouvoir créer des pièces d'or. Et évidemment, il y a un petit personnage qui va la défendre. Donc c'est deux courts-métrages qui sont intéressants parce que ils ont la même structure narrative. Ils sont vraiment construits comme des contes. Et ils célèbrent vraiment l'entraide dans l'adversité. C'est des beaux personnages.
Ah oui, ça nous est cher, ça, l'entraide. sur Radio Libertaire. Bon, bah, merci beaucoup, Marion.
Et peut-être pour poursuivre l'actualité cinéma, ça, ce sera plus tard, ce sera le 24 avril, mais là, c'est un film inédit, vraiment, de 71, qui s'appelle Bushman, d'un David Chicheleux. Chicheleux, je ne sais pas trop comment on dit, qui en fait, c'est un film important parce que ça va être vraiment une grande découverte. C'est un film qui est sublime en termes de cinéma, dans un noir et blanc incroyable, avec des cadres qui est très composé, qui est très inventif aussi dans sa narration, et qui est très très important dans son propos politique, parce qu'en fait on suit le destin d'un jeune Nigérian qui fuit la guerre du Biafra pour San Francisco. Donc ça parle donc de son rapport au pays et de la façon dont il va s'intégrer ou pas dans la société américaine de l'époque. Ça se passe en 68. Et j'en dirai pas trop sur le fond, mais parce que ça... Faut pas trop en dévoiler pour préserver le choc, mais c'est un film dont il est vraiment très important de parler au vu de la situation politique qu'on connaît.
Eh ben, merci beaucoup, Marion.
Ben, merci beaucoup pour l'invitation.
Bravo à Malavida, et longue vie et bonne continuation à Malavida, et merci à vous, à eux, pour tous ces films rares et superbes qui nous proposent. Et ruez-vous voir le meilleur film du monde. Alors, ça n'engage que moi, mais
Mais c'est le cas, et c'est vrai que on voit là sur les réseaux sociaux, c'est un film qui a beaucoup marqué. Ah, et, le public réagit déjà beaucoup, donc on vous attend.
Et je t'assure que la bande-annonce est superbe, et pour l'avoir diffusée en cachette de mes collègues, que je salue s'ils m'écoutent, le public réagit beaucoup. Hein.
Ouais, elle est très 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 réussie.
Elle est très réussie, bravo à vous. Voyez-vous voir Alice dès le 28 février dans toutes les bonnes salles parisiennes et ailleurs, et partout en France. Nous, on va se quitter pour la première partie de cette émission, avec un groupe qui s'appelle Boudoir, Star et Dami. Je voulais terminer par ça parce que dans quelques semaines, le 22 mars, nous diffuserons l'interview de la compositrice, chanteuse et guitariste du groupe, Marta Dvorakova, qui nous avait accordé une interview au Kashtan à Prague à l'automne dernier, et c'était une superbe émission autour de Boudoir, Star et Dami, et de sa chef, de sa leader, comme on dit maintenant. Donc on va terminer avec le titre Rosinkovi Pokoi, ce qui veut dire la chambre Rosinkovi, je sais pas. Tu peux m'aider, Marion? Rosinkovi. H-R-O-Z-I-N-K-O-V-Y. Bon, peu importe. Ça te dit rien, ça? Faut qu'on progresse encore en tchèque. Et voilà, on va se quitter pour la première partie de l'émission avec ça. Et puis on enchaîne avec... on va parler du festival Ardente avec nos amis du Théâtre de Vanves. À tout de suite. We'll be right back.
ať to tak nebolí. Křič, plač, hladině, pohodně popolí.
Radio de la Fédération anarchiste, vous écoutez l'émission Les Oreilles Libres et on va parler maintenant du festival Ardenté avec Anouchka Charbet, Maxime Laforgue et Jérémy Mazeron. Bonjour.
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 Alors peut-être on peut commencer par vous présenter. Anouchka, tu es déjà venue, c'était pour parler du Switch Festival, je crois,
il y a
plusieurs années. Et bah, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais ou avant, tu es... La directrice, je pense.
Voilà, je suis la directrice du Théâtre de Vanves, qui est un théâtre de ville, dans lequel on travaille beaucoup avec des artistes émergents et beaucoup des artistes qui proposent des projets contemporains, voilà, actuels, qui parlent de la société.
Ah ouais. Alors c'est vrai qu'on t'avait reçu pour le Switch Festival, qui est un festival de musique, et nous on fait la plupart du temps quand même 95 émissions sur 100, et on parle de musique. Mais là, aujourd'hui, je suis très content, parce qu'on va parler de danse avec vous, et je crois que c'est la deuxième ou troisième fois seulement, dans toutes ces années. Et voilà, c'est super, on va parler de danse. Alors, Maxime, tu es également venu, mais c'était pas pour nous parler de Vanves.
Non, c'était pour parler d'un autre festival dédié à la performance, qui s'appelle Frasque, avec le lieu, le générateur.
Eh oui, et maintenant tu es donc à Vanves.
Tout à fait, oui.
Et ta fonction avant, c'est
chargé de communication.
Voilà.
Voilà.
Très bien. Très bien. Jérémy Mazeron, bienvenue. C'est la première fois.
Tout à fait. C'est une première, je suis ravi.
Eh bien, présente-toi.
Alors moi, je travaille aussi au Théâtre de Vanves, où je suis chargé de la danse. Donc, en binôme avec Anouchka, on construit la programmation du festival dont on va te parler.
Ouais.
Et je suis aussi chargé des relations avec les publics, donc monter des projets avec les Vanvéens de tout âge et hors de la ville aussi.
Ouais, très bien. Bon, alors, peut-être on peut parler de l'historique du festival. Quand, par qui, pourquoi a été créé le festival Ardenté?
Ouais. Donc, le festival a été créé en 1998. Donc, c'est un des vieux festivals de danse de la région parisienne.
Ouais.
Et peut-être en France, il n'y en a pas tant que ça, qui sont aussi âgés. Et il avait été fondé par José Alfaroba, à l'époque, sur le constat que dans les scènes publiques, et notamment les théâtres de ville, il y avait très très peu de possibilités pour les jeunes artistes, les jeunes chorégraphes, de se produire, de travailler. Mmh. Et donc il avait monté ce festival qui, à l'époque, était vraiment construit sur des binômes de programmation entre des jeunes chorégraphes et des chorégraphes un petit peu plus confirmés, les uns ayant un pouvoir d'entraînement, notamment du public, les jeunes chorégraphes. Et voilà, donc ça c'était en 1998, et peu à peu après le festival s'est développé. Il a commencé à prendre vraiment sa vitesse de croisière une dizaine d'années après.
Ouais.
Et voilà, après on l'a beaucoup ouvert à l'international, on a fait des collaborations diverses et variées, avec des structures partenaires, avec des festivals à l'étranger, des compagnies, des fidélités avec les artistes.
Et toi tu t'en occupes depuis combien de temps?
Bah moi, depuis que j'ai pris la direction, plus particulièrement sur la programmation, mais avant, je travaillais à l'endroit de Maxime, à l'endroit de la communication.
Oui, d'accord.
Voilà.
Et alors, est-ce que ton arrivée à la programmation, donc, comment as-tu fait évoluer ce festival?
Alors, on l'a fait évoluer. Alors, le festival, dans les dernières années, parce qu'on avait un directeur qui était... qui étaient vraiment beaucoup dans la construction, et à partir du moment où quelque chose marchait, il s'en désintéressait un peu et il allait vers d'autres lieux. Et c'est vrai que le festival Ardenté, quand la danse a commencé à, quand déjà le festival a commencé à être vraiment repéré, et que voilà, que les spectateurs venaient, que les pros venaient, que les artistes avaient envie d'y être programmés, voilà, que tout roulait, il a commencé lui à s'intéresser beaucoup à tout ce qui était émergence d'écriture de plateau dans les années 2006-2007. Et en fait, il a beaucoup étoffé le festival et a vraiment fait grossir et grandir en y adjoignant des projets théâtre qui ont pris une place de plus en plus croissante jusqu'à l'année de son départ en retraite, hein, 2015. Et voilà, donc nous, on s'est vraiment questionné en 2015, à partir de 2015, donc après l'édition 2015, qu'est-ce qu'on voulait faire de ce festival ? Est-ce qu'on voulait le poursuivre de la même manière ? Donc ça devenait un festival qui était hyper grand, hyper long, c'était 2 mois et demi. Et
oui,
vraiment, il y avait quasiment 100 projets qui étaient présentés. Mmh. Et voilà, on s'est posé la question, est-ce qu'on voulait conserver ça ? Et en fait, on a fait le choix en équipe, en discutant, de recentrer complètement sur la danse. Et à partir de ce moment-là, puis après, d'imaginer aussi d'autres petites... d'autres façons de la présenter aussi.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on avait inventé, par exemple, la journée des cadences, qui était une journée de présentation d'étapes de travail. Et puis, sur un rythme qui était beaucoup plus court et qui nous convenait mieux, qui nous permettait de travailler beaucoup plus en amont avec les artistes. Et on n'était plus dans la strict accueil, le strict accueil de projets en diffusion qui s'accumulaient et qui s'enchaînaient les uns aux autres. Et on avait du mal à la fin, on avait vraiment du mal à tisser des liens avec les artistes.
Ouais.
Et c'est vraiment ce qu'on a voulu retrouver. Donc, on est revenu à un format d'un mois, mais avec un travail en amont de résidence, d'accueil, d'accompagnement, etc., qui était moins le cas en danse dans les dernières années du festival.
Parce que là, c'est même pas un mois, là, en tant que diffusion, c'est sur 2 semaines, je crois.
Alors après, il y a le contexte économique qui a joué. Mais voilà, la réduction à un mois, c'était pas en raison tellement d'un contexte économique, mais vraiment, nous, de la volonté de recentrer sur la danse.
Mmh.
Après, le contexte économique des dernières années a fait que, oui, on est passé à 3 semaines et que cette année, on passe à 15 jours.
Ah ouais.
Voilà.
Donc, ça veut dire que
la vie.
C'est dur, là ? C'est chaud ? C'est comment ?
Oui, c'est chaud. Bah après, c'est un mystère pour personne que les collectivités prennent cher en ce moment et que celles qui ont des ambitions et des budgets un peu conséquents pour la culture, mais comme pour je sais qu'à la mairie de Vanves, il n'y a pas que la culture qui est impactée par des baisses de budget parce que l'inflation, parce que le contexte, parce que les augmentations salariales qui sont décidées au dernier moment et pas anticipées par l'État et du coup pas possiblement anticipées par les collectivités. Voilà, tout ça s'accumule avec un contexte qui est quand même vraiment compliqué en plus au niveau national. L'État qui se désengage quand même beaucoup aussi de ses prérogatives et les délègue beaucoup aux collectivités avec pas forcément les moyens qui vont avec. Donc ouais, les temps sont compliqués en ce moment, enfin comme pour la plupart de mes collègues. Hein.
Et tu l'as dit tout à l'heure, le Vanves est un théâtre municipal.
Ouais.
C'est pas donc vous n'êtes pas une scène nationale, parce que j'imagine qu'il y a des aides quand t'es une scène nationale, des choses comme ça. Ça vous n'avez pas de.
Ah si, nous on est une scène conventionnée,
voilà,
une scène conventionnée d'intérêt national pour la danse et les écritures contemporaines qui comprennent la musique et le théâtre.
Ouais,
donc si, on a des aides du ministère. Et puis après, on est conventionné aussi, on a des aides sur la permanence artistique de la région.
Mmh.
Et on a des aides aussi pour justement ce travail sur la création, sur l'accueil en résidence, sur l'accompagnement des artistes émergents par le département également.
Bon, ah ben.
Voilà, après on peut avoir des aides ponctuelles à droite à gauche. Mais,
mmh.
Mais alors, si, on est aidé, on est un des théâtres de ville qui est très aidé.
Ah ouais, bah bon.
Du fait de la spécificité de notre activité et de l'artistique qu'on défend.
Pour habiter dans une autre ville de banlieue parisienne, je peux te dire que moi je serais content d'avoir un théâtre comme le vôtre dans la ville que je ne vais pas nommer.
Tu es le bienvenu.
Dont le maire est Mère Courage, tu vois. Bon, bref.
Ben nous, Mère Courage est un autre endroit, tu vois.
Non, nous, Mère Courage, c'est les flics, hein, tu vois. C'est pas.
Ouais.
Bon. C'est autre chose. Alors, la danse, c'est vaste. Il y a plein de styles, de choses différentes. Quelles sont les spécificités, s'il y en a, du festival Ardenté de Vanves, peut-être en termes de programmation, de style chorégraphique. Je crois que tu as parlé de chorégraphes débutants, confirmés. Quelle est votre ligne de...
ouais. Je vais peut-être laisser Jérémy présenter, mais la ligne en général, elle a pas tellement changé dans les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est vraiment présenter des projets émergents, ça c'est toujours le cas, des projets en création, donc on accompagne en amont aussi, c'est rarement des créations qu'on accompagne d'artistes qu'on connaît pas. Et puis les artistes internationaux qu'on a beaucoup développés depuis que Jérémy est arrivé aussi à la programmation.
Il y a une chose historique dont t'as pas parlé, Anouchka, c'est le pourquoi Ardenté. Ardenté, au départ, c'était art, danse, théâtre. Et c'est vrai que ça vient de l'amour du fondateur de ce festival, José Alfaroba, pour la danse théâtre, pour la danse de Pina Bausch, notamment. Donc ça, c'était très présent sur les premières années, ces questions de la danse théâtre. Ça s'est effacé petit à petit, mais ça a laissé quand même au centre de ce festival une question de la danse contemporaine uniquement. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment un festival de danse contemporaine. C'est-à-dire qu'on ne présente pas d'autres esthétiques, on ne présente pas de danse urbaine, on ne présente pas de danse classique ou de danse jazz, très peu. Par contre, il y a toujours ce goût qui est là depuis le début, je pense, pour les formes un peu hybrides. Et les formats qui vont... voilà, il y avait la question de la danse-théâtre au départ. Ça, je trouve qu'on le retrouve aujourd'hui avec des écritures et des artistes qui vont mélanger différentes approches. On en parlera certainement plus tard. Il y a des projets qui sont co-signés par des chorégraphes et des musiciens. Oui. Il y a des projets qui effectivement flirtent avec le théâtre, une présence assez importante du texte. Et beaucoup de projets aussi, et ça c'est aussi historique, qui ont une forme très performative, donc qui vont avoir la question du corps et de la mise en visibilité du corps sur un plateau au centre, même si c'est pas forcément ce qu'on entend au départ comme de la danse. Donc c'est vraiment toutes ces questions-là du corps contemporain sur un plateau et le corps comme médium d'expression principale dans une diversité d'approches vraiment toujours par contre contemporaines.
Ah oui, alors il n'y a pas d'hybridation justement avec les danses urbaines, moi il me semblait...
Ça peut arriver,
oui, ça arrive,
ça peut arriver dans certains projets, mais plutôt à l'endroit de chorégraphes, danseurs, danseuses contemporains, contemporaines, qui vont s'intéresser et se nourrir avec ces esthétiques-là, plutôt que l'inverse. Ouais, on n'est pas un théâtre spécialisé sur les écritures urbaines.
Ouais. C'est vrai que je n'ai même pas spécifié que c'est un festival de danse contemporaine. Mais je suis tellement loin de la danse classique, moi, que j'avais oublié que ça existait.
Et après, ce qu'on évite aussi, ce qui ne nous intéresse pas vraiment, c'est d'essayer d'être représentatif de courants qui pourraient être complètement identifiés. Ah bah on s'attache plutôt à des projets pour leur intérêt.